20 часов в Париже.
В Париже, он дюс термометр.
Стада, c'est Ron, Bistueco, Sidé.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, le dernier avant l'été. Ce soir, pour la rédaction en anglais, c'est Christina Okello qui est avec nous.
Good evening.
Pour la manière dont au Zimbabwe, les travailleurs informels, comme on les appelle, sont en train de faire entendre leur voix. Matei Vichniak de la rédaction roumaine.
Bonasera.
Pour les démocraties illibérales dans l'Europe de l'Est, des pays qui remettent en cause l'état de droit. Et Azadeh Vala de la rédaction persane.
Dorut Barchom.
À propos de la grève des manifestations des commerçants du bazar de Téhéran. Bonsoir à vous tous. Avant tout cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir ce sommet européen consacré à l'immigration et à la division de l'Union européenne sur cette question. Alors, les 28 ont décidé d'augmenter les aides à la destination de la Turquie et de l'Afrique du Nord afin d'éviter des flux migratoires comparables à ceux que l'Europe avait enregistrés en 2015. Matei Vichniak, à la rédaction roumaine, vous insistez sur le fait que la clé de la réduction des flux migratoires se trouve en Afrique. C'est ce qui revient en tout cas dans les journaux qui vous ont servi à confectionner votre revue de presse.
Oui, l'intellectuel Jacques Attali, par exemple, dans l'Express, pose cette question. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Européens si un jour ils vont se retrouver devant 200 ou 300 bateaux pleins d'immigrés de type Aquarius? Et sa réponse est très pertinente. Il dit, pour éviter un tel désastre, on n'a pas d'autre solution que d'aider le continent africain. C'est dans notre intérêt. Jacques Attali parle du développement, mais aussi de la transition démocratique qui s'impose en Afrique. J'ai cité aussi Renaud Girard, qui a très bien expliqué dans Le Figaro en quoi consiste la bombe démographique africaine. C'est une expression que la presse utilise depuis un certain temps, j'observe. Dans les années 60, quand les pays africains obtenaient leur indépendance, la population de l'Afrique était de 250 millions de personnes. Maintenant, c'est 1 milliard de plus. En 2050, ce sera le double. Ne pas voir que cette population jeune va migrer, c'est refuser de comprendre la nature humaine et tout simplement la vie. Or, l'Europe doit se préparer à gérer cette réalité et se barricader, ce n'est pas une réponse.
Amédée, l'Union européenne, sans renoncer au principe de la solidarité, renonce au principe des quotas d'immigrés. Le point de vue de certains pays d'Europe de l'Est aurait donc été entendu?
Et oui, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont refusé le principe de quota. Je rappelle qu'il a été refusé aussi par François Hollande à l'époque. Le groupe de Visegrad a été déclaré le club de xénophobe, on l'a taxé de rétrograde, ainsi de suite. Et c'est vrai que certains leaders politiques de l'Europe de l'Est ont une vision nationaliste, isolationniste et illibérale dans le cas de Viktor Orban. C'est tout simplement aussi une question du rythme historique. On ne peut pas changer les mentalités seulement en quelques décennies. Depuis la chute du communisme, l'Europe de l'Est est devenue une région d'émigration. Accueillir des milliers de migrants lorsque des milliers de Polonais ou Hongrois sont eux-mêmes partis travailler à l'étranger, cela fait tout simplement peur. L'immigré est vu d'un œil suspect. Une société multiculturelle en Europe de l'Est se fera, mais peu à peu, par la coopération, par les échanges universitaires, par le tourisme, par les mille choses encore qui doivent être imaginées. Il faut comprendre que les gens de l'Est détestent qu'on leur impose un modèle d'en haut. Cela s'est passé déjà au temps du communisme et cela n'a pas marché.
Autre chose, dans le document final conclu à Bruxelles, le deuxième point est formulé de la manière suivante. Le Conseil européen est décidé à éviter un retour aux flux incontrôlés de 2015. Le mot est donc lâché, incontrôlé. Il faut voir ici une manière de désavouer Angela Merkel, Matei.
Nous avons beaucoup parlé à la rédaction roumaine du fait que la chancelière est très fragilisée politiquement en ce moment. Elle a été considérée, il y a 2 ans, comme la reine de l'Europe. Je cite, le dirigeant qui avait sauvé l'honneur de l'Europe, la femme la plus puissante au monde, la chancelière des réfugiés, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la presse allemande qui la considère en fin de parcours. Contestée par sa propre famille politique, contestée par sa coalition, contestée par la classe politique allemande, Angela Merkel traverse un moment difficile pour elle, mais aussi pour l'Europe et aussi pour les projets d'Emmanuel Macron. Personne ne pensait il y a 2 ans que la question migratoire allait changer si profondément et si vite le paysage politique en Europe et permettre l'arrivée au pouvoir d'une manière sans précédent de certaines forces populistes, nationalistes ou d'extrême droite.
Angela Merkel fragilisée, dites-vous. Autre analyse, Christina Okello, ce nouvel accord sur les migrants, arraché donc au forceps à Bruxelles, aurait-il donné plutôt un répit à Angela Merkel et pour combien de temps?
Justement, Philippe,
Philippe, elle peut souffler au moins jusqu'à dimanche, jour où l'aile droite de sa coalition, le CSU, va se prononcer sur les nouvelles mesures adoptées par les dirigeants européens. Le CSU, mené par son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, a été très critique sur la politique d'immigration de Merkel, allant jusqu'à menacer de fermer les frontières de l'Allemagne et de refouler tous les migrants s'il n'y avait pas eu d'accord. Or, il y en a eu un hier et il semble conforter maintenant la chancelière allemande en appelant les États membres à éviter ce qu'on appelle les mouvements secondaires, à savoir les déplacements des migrants entre pays membres après avoir été enregistrés dans les lieux d'arrivée.
Et ce sont justement ces mouvements secondaires qui ont fragilisé Angela Merkel.
Oui, finalement. Tout à fait, Philippe. L'Allemagne, rappelons-le, a accueilli plus d'un million de migrants depuis 2015, une période marquée par plusieurs faits divers sordide, mettant en cause des demandes d'asile, mais aussi la politique de porte ouverte de Angela Merkel. Donc, obtenir quelques avancées de l'Europe, aussi peu soit-elle, c'est une victoire pour elle, estime Raphaël Bossong. Il est chercheur sur les affaires européennes à Berlin. Je vous propose de l'écouter.
It may be hopefully a good political signal to diffuse some of the tensions.
Que vous a dit Raphaël Bossong?
Donc il explique que cet accord va envoyer un signal politique fort en Allemagne qui pourrait désamorcer les tensions de ces derniers mois. Il explique aussi que la crise à laquelle l'Allemagne a été confrontée et a été exagérée car en ce moment le pays ne subit plus la même pression migratoire qu'en 2015. Il n'empêche, le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, a tout de même voulu créer des centres de rétention pour garder les migrants pendant leur processus de demande d'asile.
Alors Christina, dans le nouvel accord de l'Union européenne, on parle aussi des centres contrôlés. Est-ce qu'ils sont comparables à ce que propose le ministre allemand de l'Intérieur?
Pas tout à fait, Philippe. C'est ce que pense Raphaël Bossong. Je vous propose de l'écouter de nouveau.
There is some similarity, but not really.
Donc Bossong explique que même s'il y a quelques parallèles, c'est difficile d'établir un lien direct entre le projet de l'Union européenne de créer des centres de contrôlés en Afrique du Nord, par exemple, et les centres de détention voulus par les ministres allemands de l'Intérieur, Horst Seehofer. Mais Bossong ajoute qu'il y a suffisamment pour plaire à Seehofer dans cet accord et qu'il pourrait en profiter pour sauver la face dans son bras de fer avec Merkel. Cela, bien sûr, s'il décide de jouer ce jeu, on aura une réponse dimanche lorsqu'il s'exprimera.
Azaleh Vala, ce sommet était-il important pour l'Iran et pour l'Union européenne par rapport à l'Iran, justement?
Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des Afghans et des Iraniens parmi des réfugiés ou des migrants qui tentent de passer vers l'Europe. L'Europe s'inquiète d'un afflux important d'Iraniens via la Serbie depuis la levée des visas entre ce pays et l'Iran en août 2017. Depuis la libéralisation des visas parmi plus de 7000 touristes iraniens qui sont entrés en Serbie, il y a plusieurs centaines de personnes qui essaient de rejoindre l'Union européenne. L'Union européenne craint donc que la Serbie n'ait ouvert une nouvelle voie de migration. En plus, après la validation du décret migratoire de Donald Trump par la Cour suprême des États-Unis qui interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de l'Iran, l'Europe et le Canada seront désormais des destinations préférées des immigrés iraniens. Par ailleurs, un très grand nombre de réfugiés ou d'immigrés afghans se trouvent en Iran et d'après le commissaire européen aux migrations, l'Union européenne attend que la République islamique continue d'arrêter la vague d'immigration du côté de l'Afghanistan.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette crise migratoire en Europe. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
$30.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Et intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Le Zimbabwe, par exemple, ce pays d'Afrique australe qui s'apprête à élire un nouveau président. Ce sera le 30 juillet. Le premier scrutin sans Robert Mugabe qui a régné sans partage sur le pays depuis son indépendance en 1980. Alors le climat politique qui semblait s'ouvrir avec l'entrée en lice de 23 candidats s'est tendu ces derniers temps avec un attentat visant l'actuel président qui pour autant, Christina Okello, de la rédaction anglophone, n'a pas entamé les espoirs de changement, notamment chez les travailleurs du secteur informel.
Non, pas du tout, Philippe. Et vous pouvez les entendre chanter sous ma voix. Nous écoutons actuellement un extrait d'un town hall meeting. C'est une séance de discussion ouverte où le public, dans ces cas les travailleurs informels, convoquent les représentants politiques ou futurs représentants pour leur faire connaître leurs besoins et ces derniers doivent tâcher d'y répondre. Cette forme de démocratie de proximité est assez nouvelle pour la Zimbabwe qui a connu, comme vous l'avez dit, un seul président depuis son indépendance. Et pour Wisbon Malaya, le secrétaire général de la Chambre nationale de commerce du Zimbabwe, c'est un signe que l'espace politique s'ouvre enfin.
Such democratic space has never been there before.
Donc, Philippe Wisbon Malaya explique qu'une telle espace démocratique n'a jamais existé en Zimbabwe auparavant. Et il ajoute que c'est grâce à cette ouverture, justement, qu'ils ont pu organiser des telles réunions, certaines en plein cœur de la capitale Harare, avec la participation de plusieurs candidats de tous les partis confondus. Cela aurait été impensable durant l'époque de Robert Mugabe, dit-il. Il s'agit bien sûr du premier scrutin sans l'ancien président et Malaya espère qu'il sera aussi le premier scrutin sans corruption. Écoutons-le.
During the Mugabe regime, it was leading west.
Donc Philippe, il explique que durant le régime de Mugabe, les travailleurs informels devaient payer de l'argent pour obtenir des espaces pour vendre leurs produits dans la rue et que ces espaces se vendaient très cher et selon des lignes partisanes. Très souvent, cette population qui déjà ne gagne pas très bien leur vie était obligée de payer des sommes en plus de leurs impôts à l'État.
Si les travailleurs informels sont en difficulté, Christina, c'est parce qu'ils existent en dehors des structures traditionnelles. Ils ne cotisent à rien et vivent carrément dans l'ombre.
Oui, c'est vrai que l'État a du mal à obtenir des impôts de cette population. Mais les secteurs voudraient que cela change et proposent qu'il y ait plus de passerelles, voire une véritable harmonisation entre l'économie formelle et informelle. C'est ce qu'ils réclamaient aux représentants politiques venus la recruter. Ils ont argumenté avec ce constat. 94% des travailleurs au Zimbabwe se trouvent dans le secteur informel et ils représentent 60% de l'économie selon le Fonds monétaire international, le FMI. Donc ils veulent désormais compter dans la société. Les candidats qui sont venus nombreux pour les écouter ont tous reconnu la revendication et ils ont promis d'agir. Et ils seront attendus au tournant, Philippe, parce que, comme ces chansons chantées par la présidente de la Chambre de commerce du Zimbabwe, Madame Simbanda, l'indiquent, s'ils ne remplissent pas leurs obligations, les travailleurs informels les remplaceront par quelqu'un qui le fera.
Christina Okello de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. 12 pays occidentaux dont la France et les États-Unis ont exhorté jeudi le Parlement roumain à ne pas adopter des amendements modifiant la législation pénale. Ils estiment que ces amendements peuvent miner l'état de droit et la coopération judiciaire. Matei Vichniec de la rédaction roumaine, justement, ce sujet divise vos compatriotes en ce moment et inquiète l'Europe.
Oui, et on a l'impression que c'est sans fin en Roumanie, sans fin cette lutte pour bâtir un état de droit durable et solide, susceptible parmi d'autres à éradiquer la corruption. En effet, une partie de la classe politique, et je rappelle que la Roumanie est dirigée par un gouvernement social-démocrate, essaie d'assouplir le code pénal. Je propose qu'on écoute cette phrase prononcée par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, devant la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, mercredi soir.
Je rajoute des évolutions préoccupantes en Roumanie, où je me suis rendu il y a peu de temps, car depuis son arrivée au pouvoir, la coalition du Parti social-démocrate et du Parti libéral-démocrate n'a eu de cesse de chercher un moyen de remettre en cause ou d'empêcher les procédures judiciaires qui visent la classe politique.
Le ministre français des Affaires étrangères. Alors c'est une démarche inédite dans le contexte où en Roumanie, les amendements au code pénal pourraient sauver de la prison l'homme fort de la gauche.
Il s'agit de Liviu Dragnea, le chef du parti au pouvoir, qui vient d'écoper une peine de 3 ans et demi de prison en première instance dans une affaire d'emploi fictif. Mais il y a encore un aspect, je cite ce que les 12 pays disent, plusieurs modifications des codes pénals et des procédures pénales peuvent entraver la coopération judiciaire internationale et miner la lutte contre la criminalité organisée, les délits financiers, le trafic de drogue ou la traite des êtres humains.
Matei, ce qui se passe en Roumanie rappelle d'autres situations inquiétantes à l'Est, en Pologne, la Hongrie également.
Et j'ose dire que dans les pays de l'Europe de l'Est et dans les Balkans, il a eu toujours une sorte de savoir-faire néfaste. C'est-à-dire, on a toujours su vider les lois de leur contenu. Les empires qui sont passés par là, les multiples dictatures, un certain complexe de retard par rapport à l'Occident, d'autres formes d'oppression ont irrigué cette art de vider du sens les formes venues d'ailleurs, comme par exemple la démocratie. D'un côté, les peuples aspirent à la démocratie et à l'état de droit, mais de l'autre côté, ils se laissent manipuler par des gourous habiles, par des discours nationalistes ou protectionnistes ou identitaires. Il est un savoir-faire mimétique. Mimer la démocratie, mimer l'Occident, mimer même le capitalisme. Et en réalité, il y a des forces souterraines, claniques et autoritaires qui triomphent et qui veulent s'assurer la permanence du pouvoir. C'est presque une malédiction. On dirait que ceux qui s'installent au pouvoir ont une seule idéologie. Comment faire pour rester au pouvoir? Mais je voudrais dire qu'en ce moment, c'est parce que l'Europe est faible que la doctrine illibérale fait son chemin et que certaines forces politiques essayent de faire, par exemple, la Roumanie, ce qui était impensable il y a 5 ou 10 ans.
Matei Vichniac de la rédaction roumaine. Intéressons-nous maintenant à ce qui s'est passé en Iran durant une bonne partie de la semaine, à savoir la grève et les manifestations des commerçants du bazar de Téhéran. Dites-nous en plus, Azadeh Bala.
Les commerçants du Grand Bazar de Téhéran ont baissé les rideaux métalliques de leurs boutiques depuis le lundi 25 juin à la suite de la grève des vendeurs de téléphones portables qui avait eu lieu la veille. La vague de protestation s'est étendue aux rues voisines du bazar et au centre-ville de Téhéran. Les deux jours suivants, le mardi 26 et le mercredi 27, les rassemblements protestataires du Grand Bazar se sont poursuivis et se sont étendus dans des quartiers populaires. Ces protestations ne se limitaient pas à Téhéran, des commerçants des bazars et aussi des gens ordinaires sont descendus une nouvelle fois depuis le mouvement contestataire de janvier 2018 dans les rues de plusieurs villes de l'Iran.
Alors pourquoi les bazaris ont-ils baissé ainsi leurs rideaux? Quelles étaient leurs revendications?
Ils protestaient contre la chute continue, la dévaluation et la dépréciation de la monnaie nationale iranienne ou la hausse flagrante des prix des devises étrangères, le blocage des marchandises à la douane, le manque de critères clairs pour le dédouanement et leur impossibilité à vendre leurs biens. En 9 mois, la monnaie iranienne a perdu presque la moitié de sa valeur face au dollar. Le gouvernement a également interdit l'importation de plus de 1300 articles de luxe pour limiter la fuite des devises. Et les rumeurs se sont répandues sur la fragilité grandissante du secteur bancaire iranien. Tout cela reflète les premiers impacts du retrait des États-Unis de l'accord nucléaire et le possible rétablissement des sanctions contre l'Iran.
Et puis il y a le mécontentement à l'égard de la hausse du prix de l'or, du ralentissement de l'économie, de l'insécurité économique de plus en plus aiguë. Cette insécurité économique grandissante qui va de pair avec la montée de l'inégalité et ils sont nombreux à dire, à exprimer leur colère. Quels sont les slogans que nous entendons, pardon, Azadeh?
Notre ennemi est ici même, on nous ment lorsqu'ils disent que c'est l'Amérique. Ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran. Quitter la Syrie, pense à nous. Abba l'oisif, le brute, le tyran, il appelle les forces de l'ordre à soutenir leur cause.
Alors comment est-ce que le gouvernement de la République islamique a réagi face à ces manifestations de rue?
Des affrontements ont eu lieu le lundi dernier entre des forces de l'ordre et des manifestants dans le centre de Téhéran près du Parlement. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des incendies, tortures. Certaines d'autres montrent les forces de l'ordre brisant des vitrines de magasins fermés ou tapant sur des rideaux baissés des boutiques. Les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes sur les manifestants et ont essayé de les disperser.
Alors le président de la République s'est exprimé, le guide suprême également. Et puis le procureur général de Téhéran, lui aussi, a parlé. Hein.
Il a annoncé que plusieurs manifestants avaient été arrêtés et qu'ils seraient jugés selon la loi contre la corruption. D'après lui, les détenus peuvent être condamnés à des peines allant jusqu'à la peine capitale et leurs biens peuvent être confisqués. Il a également déclaré que les événements de ces derniers jours faisaient partie du projet des Américains pour déstabiliser l'Iran et que leurs agents avaient forcé des bazaris à fermer leurs magasins, avaient infligé des dommages aux biens publics et avaient essayé de créer le chaos.
Merci Azadeh Bala de la rédaction Personne de RFI. C'était Accent du Monde qui s'absente pour 2 mois. Rendez-vous donc à la rentrée.